adapté et que c'est pas toujours commode le transport adapté, mais juste un exemple aujourd'hui. Votre animateur devait être prêt à 10h05 pour arriver ici à 11h35. J'ai décidé de me payer du temps. J'ai annulé mon transport pour m'en venir. J'étais ici à 11h39. Et j'ai pu faire ma vaisselle, écrire plein de courriels, parler à du monde. Je veux dire, quand les gens se plaignent de la lourdeur et du manque de, disons, la pratiquitude du transport adapté, c'est ça que ça veut dire.
Accès libre avec Luc Fortin.
Et Maurice Bolduc qui est devant moi aujourd'hui de l'autre côté de la fenêtre. Maurice, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Monsieur Bolduc, mes hommages.
Bonjour, mes hommages, pareillement.
Comment allez-vous?
Bien toi-même.
Oui, je pense beaucoup à vous ces temps-ci parce que, bon, la dernière fois, je pense que t'étais là, c'était le jour du décès d'Aznavour et t'étais un petit peu secoué. Et j'écoute une série disponible en balado offerte par Radio-Canada. Les gens qui sont intéressés, là, cliquez sur « Documentaires » et il y en a quelques-unes, dont celle d'Aznavour. Et ben, c'est ça, je pense à vous. Il y a plein de tunes obscures là-dedans et on a découvert à quel point Aznavour peut être macho. Mais le gars a quand même évolué dans sa vie. Alors ça, c'est une bonne affaire. Aujourd'hui, chose sérieuse, une nouvelle application qui nous aide à se placer dans la peau de Matisse, 5 ans. La situation du transport public à Sherbrooke, situation pas toujours évidente pour les personnes avec une limitation quelconque. Des règles fastidieuses lorsque vient le temps de venir en aide aux parents d'enfants handicapés. Et des millions de dollars plus tard, un technopôle ouvre ses portes. Bon début de d'accès libre. On est là tous les midis et tous les lundis midi et c'est le dernier lundi du mois d'avril déjà. D'ailleurs, on aura éventuellement une pièce qui va célébrer le dernier week-end d'avril. Aujourd'hui, on est un petit peu dans la couleur folk. On a choisi de ce genre de truc. Je vous disais, quelques millions de dollars plus tard, un technopôle voit le jour. Ça a été inauguré à grande pompe la semaine dernière. Vous savez comment le gouvernement aime s'assurer que l'on sache à quel point ils ont investi dans chaque chose dans laquelle ils investissent. D'ailleurs, je remarquais aujourd'hui un communiqué disant combien, non seulement ils soutenaient moralement le défi sportif, mais combien chaque ministère et même l'OPHQ a donné un gros 4 800 $ et avait quand même trois lignes dans le communiqué en question. Alors, il y avait lancement à grande pompe la semaine dernière de ce fameux nouveau technopôle organisé en lien avec le CHU, Sainte-Justine. Mais surtout, une fois qu'on a dit ça, c'est tout le bien qui sera possible de non seulement d'obtenir, mais de fournir à ces jeunes enfants. Et éventuellement, là, on va entrer en contact avec Marie-Claire Rondeau, qui, bon, tant mieux, Maurice vient de faire la communication avec elle. Marie-Claire, qui est coordonnatrice qualité, processus, direction de la réadaptation au Centre de réadaptation Marie-Enfant CHU Sainte-Justine. Bonjour Marie-Claire.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, merci. Moi, je ne suis pas très ouverture à grande pompe. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de truc-là où vous étiez obligé de mettre vos talons hauts, avoir le sourire et être diplomate. Mais mis à part le début, disons, obligatoire, le centre hospitalier vient de se doter avec ce technopôle d'un ajout important là, pour l'avenir.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, le technopôle en réadaptation pédiatrique du CHU Sainte-Justine a ouvert ses portes au grand public officiellement le 8 avril dernier. C'est sûr que la construction en tant que telle de ce nouveau bâtiment-là, qui a été construit et annexé au centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine à Montréal, dans le quartier Rosemont, s'est terminé là, à la fin mars, début avril.
Ouais. Donc ça sentait encore la peinture lorsqu'on a ouvert le 8.
Tout à fait, puis ouais. Je vous dirais que ça sent encore le
neuf. Je comprends.
Mais c'est d'une beauté, c'est magnifique.
Bon, Marie-Claire, selon le communiqué, le technopôle permettra de créer un espace de co-création et d'innovation entre les chercheurs, les cliniciens, les jeunes et leurs familles pour faire avancer les connaissances dans le domaine de la réadaptation pédiatrique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Effectivement. En fait, c'est beaucoup un jargon qu'on utilise, la co-création, l'innovation. Et j'ajouterais même à ça, vous avez nommé trois acteurs importants, les cliniciens, les chercheurs, les familles.
Ouais.
Mais j'ajouterais également à ça la communauté, donc les organismes communautaires et les partenaires.
Oui, même Altergo est impliqué là-dedans. On y reviendra,
oui.
Là, mais OK.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on veut dire par tout ça, c'est habituellement, en général, avant qu'un projet de recherche soit actif, voit le jour d'un côté clinique, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en rassemblant tout le monde, donc en augmentant la proximité entre les acteurs, nous, ce qu'on veut, c'est diminuer ce délai-là, bien sûr. Mmh. Donc, c'est créer ensemble, innover, faire de la recherche sur le terrain avec tout le monde. Et dans le fond, c'est mettre la science au service de la réadaptation pour les enfants, et ça, dans des délais qu'on va dire raisonnables.
Mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça implique que chacun a son bureau dans le même bâtiment? Qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on n'était pas capable de faire auparavant?
Avant. Bon, écoutez, vous avez posé la question des locaux, des bureaux. Oui, il y a certains bureaux. En fait, on va retrouver certains bureaux de chercheurs, certains bureaux de cliniciens qui prennent part au projet de recherche, mais la majeure, ce sont vraiment, en fait, on a une douzaine là de plateaux techniques, si je peux résumer ça comme ça, dans le fond, et ce sont des activités qui sont reliées à 6 domaines, 6 types d'expertise. Marie-Enfant faisait déjà tout ça, mais là, on a ajouté à ça, en fait, la technologie. Donc, je vous parle de 6 types d'activités. Là, on parle d'entraînement à la marche, tout ce qui touche la rééducation. Bon, là, je vais utiliser le terme, le membre inférieur, membre supérieur. Donc, on parle de jambes et
bras. On est habitué à ça ici.
Tout à fait. Donc, on parle d'analyse des mouvements, la communication orale, la communication écrite.
Bien, c'est ça, on y reviendra un par un. Là, j'ai ça sur ma feuille en commençant par l'insertion de la participation sociale.
Oui.
Mais concrètement, donc, il y a ces plateaux-là, mais qu'est-ce que ça va changer au niveau du pratico-pratique? Accélère le fameux 10 ans, là.
Bien, d'une part, on a une dizaine d'équipements technologiques qui sont inédits.
Ah,
donc,
okay.
On parle ici du locomat. Et quand on parle d'équipements inédits technologiques, là, c'est en réadaptation pédiatrique, d'une part, parce que c'est très souvent en adulte. Et on parle au niveau du Canada même. Donc, ça, c'est des nouveautés qu'on ne trouve pas ailleurs.
Okay.
On parle du locomat, ça a déjà été diffusé fréquemment. Donc, le locomat, qui est une aide de robotisée à la marche. Et ce que ça fait, c'est que ça prend des mesures. Donc, l'enfant est installé dans le locomat ou même dans un float où l'enfant est en suspension et il pourrait acquérir la marche ou tout ce qui est la locomotion. Et dans le fond, il y a des mesures qui sont faites. On peut aller à ce moment-là tester, OK, si on fait ça de cette façon-là, qu'est-ce que ça implique? Et là, on a les physiothérapeutes qui sont là, les chercheurs, on a même des partenaires qui disent, nous, tel aspect, on pourrait peut-être essayer ça, on pourrait peut-être développer ça. Donc,
le locomat fait partie, j'imagine, du plateau de réalité virtuelle et cybermobilité?
Non, okay. La cybermobilité, c'est plus au niveau, les cybermodalités, en fait, c'est plus au niveau de l'interactivité, Internet et tout ça, mais c'est plus au niveau de la locomotion, donc les déplacements à la marche, la rééducation des membres inférieurs, la réalité virtuelle qui est présente parce que l'enfant est représenté avec un avatar. Donc, il se voit, donc une meilleure représentation de lui-même, il peut se projeter, chose qu'on ne faisait pas avant, dans le fond. Donc, je voudrais que c'est ce qui change. Donc, c'est tout de suite, on a le chercheur qui peut être présent. On peut même élaborer des protocoles de recherche, live, et on le voit tout de suite, le résultat. OK, on modifie tel paramètre, ça va donner ça. Chose qu'on ne pouvait pas faire nécessairement avant. On n'avait pas d'abord accès à ces équipements-là. On n'avait pas aussi grande facilité d'accès à tout le monde impliqué. Et la collecte de données également, qui pouvait parfois se faire manuellement avec des équipements... de base.
Sommes-nous capables, et peut-être que ça fait longtemps, là, c'est pas nécessairement grâce au Technopôle qu'on est capable, mais de mettre en contact, supposons, le jeune Hans avec le chercheur qui est à Montréal, le spécialiste ou la famille qui, elle, est à Rimouski, et puis finalement, tout le monde fait partie de la même session de travail?
Tout à fait. Oui, c'est sûr que de déplacer des équipements de cette envergure-là, c'est pas dans les plans, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait déplacer les gens dans la mesure du possible. Sinon, bien sûr, on a des salles où on peut faire des salles de télécommunication.
Ouais.
On peut faire de l'enseignement à large spectre, même dans les universités. Donc, c'est quelque chose également qu'on veut développer. Là. On veut rayonner. On veut être un chef de file, pas juste à Montréal, mais au Québec, au Canada, et si possible, de façon internationale. également.
Je vois ici, Marie-Pierre, matériaux intelligents et prototypage.
Oui, en fait, ça, c'est, je vous dirais, c'est un peu, c'est toujours intéressant de regarder ça, c'est de la création, souvent, je vais vous donner un exemple, là, de la création, exemple, d'orthèse ou de prothèse, on va dire une prothèse de main, c'est-à-dire que ça va remplacer la main. Donc, on la voit, elle se construit, on la fait, elle est modélisée à l'ordinateur. Donc, les ingénieurs sont là, les étudiants, ils font la conceptualisation et ils peuvent l'imprimer.
OK.
Ça peut prendre 1 à 2 jours. Ouais. Et c'est imprimé à partir de plastique. Donc, elle est de façon en direct, elle est imprimée devant leurs yeux, elle prend forme. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qu'on n'avait pas là. Après ça, ils font les essais, ils font les modifications. OK, on lance notre nouveau prototype.
Sciences du mouvement et médecine du sport?
Oui, donc sciences du mouvement, donc comme ça, comme je disais, c'est tout ce qui touche là, les déplacements, la locomotion, okay. Et tout ça, les mouvements. Mais sciences du sport, en fait, c'est un volet également qu'on veut développer. Donc, tout le volet médecine sportive. Mmh. Vous avez parlé, là, je vous entendais parler tout à l'heure, là, du défi sportif. Mmh. Donc, oui, on a des sportifs qui font du sport et qui ont des déficiences physiques, intellectuelles, visuelles, peu importe, et qui participent. Et donc, c'est un volet également qu'on veut développer, le niveau, l'aspect sportif en réadaptation.
Insertion et participation sociale.
Oui, et vous parliez là, d'Altergo tout à l'heure. C'est sûr que nous, on a toujours eu un souci en ce qui a trait à l'accessibilité universelle. Donc, l'insertion, la participation sociale des personnes qui ont soit mobilité réduite, c'est ce qui nous concerne davantage ici à Marie-Enfant.
Okay.
On voulait être un modèle exemplaire quand on a construit, d'où le partenariat avec Altergo.
Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que la bâtisse répond aux critères d'accessibilité universelle.
Tout à fait.
Okay.
Puis, donc, ils sont venus visiter, je pense, à quelques reprises au cours de la construction. Ils ont émis des recommandations justement pour éliminer ou réduire au maximum là, les barrières architecturales, là, s'il y en avait, puis même visuellement également.
C'est ce que j'allais demander. Juste avant la première marche de l'escalier qui descend, là, m'avez-vous mis des petites tuiles avertissantes ou...
Écoutez... Est-ce qu'il y a des tuiles? En tout cas, je sais qu'il y a des ascenseurs partout, mais il y a beaucoup, effectivement. Mais je voudrais, il y a des codes de couleurs. Sur les planchers, il y a des codes de couleurs.
On va passer au semi-voyant.
Tout à fait. Puis même dans le contraste, c'est très, très vitré, très lumineux. Donc, le contraste des portes avec les vitres, les coins de murs qui sont également en vitre.
Ah, c'est une bonne idée. En vitre?
Oui, tout est vitré.
Oui, mais donc, c'est parce que ça, si c'est translucide, je peux rentrer dedans sans. Si je vois juste un peu, là.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des filtres. Il y a des filtres qui ont été mis avec des repères visuels également, mais je suis certaine qu'il y aurait des. Il y a toujours d'amélioration tout ce qu'on
c'est
fait.
Sûr.
On est encore, je vous dirais, des fois dans certaines. Ce qu'on appelle, quand on livre un bâtiment, on est toujours dans la correction des. Ce qu'on appelle des.
Donnez-moi 20 minutes dans votre bâtisse, je vais vous trouver plein d'affaires. Marie-Claire Rondeau, en terminant, là, ce genre de truc-là est périmé après combien d'années? C'est bon combien de temps avant qu'on se dise « Hey boy, on n'est vraiment plus à la page. »
J'espère que ce ne sera jamais.
Okay.
J'espère que ce ne sera jamais. Pourquoi? Parce que, d'une part, je suis Sainte-Justine et donc aussi Marie-Enfant. On a toujours le souci, les thérapeutes, on a le souci, les professionnels, de se dire « Est-ce qu'on fait la bonne chose au bon moment pour le bon jeune avec le bon outil?
Ouais. »
Et ces outils-là, ça en fait partie. On parle de grosses machines ici, si je peux me permettre, mais c'est pas parce que c'est des grosses machines qu'on doit dire « OK, c'est fait, check, on passe à l'autre.
Ouais. »
Au contraire, on parle d'entretien préventif, on parle de « OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » On est toujours en mode développement. Si on veut rester chef de file, si on veut réinventer la réadaptation pédiatrique puis offrir des services, des soins de pointe à notre clientèle, à nos enfants qui en ont besoin, jamais ce sera périmé.
Vous êtes bonne, Marie-Claire Rondeau. Je sens que vous auriez pu utiliser le langage du fonctionnaire, mais vous avez été claire et j'aime ça comme ça.
Bien, ça fait plaisir.
Donc, un bel ajout autant pour le Québec que le Canada que ce Technopôle en réadaptation, particulièrement pour les jeunes. Mais ce qu'on trouve pertinent pour les jeunes ensuite, on le transfère pour les moins jeunes. Alors, finalement, ça profite à tout le monde.
Oui.
Un peu de musique, M. Bolduc.
Merci.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello.
sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
On parle d'un album à venir pour Bruce Springsteen. Premier extrait, Hello Sunshine. J'ai trouvé ça sur mon petit Apple Music. J'imagine qu'il n'est pas juste là si la chose vous intéresse. C'est drôle, hein? Moi j'aime. Plus Springsteen vieillit, plus il me plaît. On voulait faire un petit tour du côté de Sherbrooke. Un article du côté de Radio-Canada dénotait quand même certaines problématiques, particulièrement au chapitre du transport adapté. Pour en parler, France Croteau, qui est coordonnatrice du regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain. Bonjour, Madame France, comment allez-vous?
Ça va bien, bonjour à vous-même.
Tiens, allons-y en deux temps. Si je vous demandais, en général, le transport collectif à Sherbrooke, comment va-t-il? Et ensuite, le transport adapté? Parce que c'est peut-être pas la même réalité.
Non, c'est un peu différent. Le transport collectif, nous autres, on l'appelle transport régulier.
Okay.
Transport urbain régulier à Sherbrooke. C'est une société de transport en commun. Donc, disons que ce qui est semblable, c'est que de 2014 à 2017, il y a eu une baisse d'achalandage dans les deux services à cause de la période, vous vous rappelez, de compression budgétaire du dernier gouvernement.
Ouais.
Et puis là, bien, on a espoir que ça revienne des deux côtés, autant à l'urbain régulier qu'à l'adapté.
Est-ce que durant, à cause de ces compressions-là, est-ce qu'il y a eu une diminution de l'offre de services?
Oui, par divers moyens. À l'urbain régulier, c'est qu'ils n'ont pas développé, disons.
Okay.
Alors, c'était des petits bouts de chemin ou un changement de chemin. Il n'y a pas eu de développement significatif. Donc, l'achalandage a même diminué là, ces années-là. Puis nous autres, à l'adapter, ben, ça l'a à peine augmenté les premières années, là, parce qu'autrefois, ça avait une augmentation normale, mais les dernières années, là, de 2015, 2016, 2017, même 2018, il y avait une diminution d'achalandage.
Au chapitre du transport régulier, est-ce que tous vos véhicules sont plancher bas, ont des rampes et ça fonctionne bien?
Non, c'est pas rendu aussi loin que Montréal. On pourrait dire que sur les 88 autobus, là, ils sont rendus avec 28 véhicules hybrides.
Hey, c'est...
Et puis,
okay.
Y a aussi des autobus à plancher bas des premières années, là.
Ouais.
Où, mais c'est pas la même chose que les hybrides, mais ils ont quand même la rampe en avant où on peut faire entrer des personnes en fauteuil roulant. Mais il y a encore, il y a plus d'autobus avec des marches, sauf des extras qu'on peut trouver avec des marches, mais sont rares.
Okay.
Donc, c'est parce que c'est des générations précédentes qui sont à plancher bas, mais on s'en vient là, pour en avoir pas mal, là, mais majoritairement là, des autobus à plancher bas.
En général, durant l'hiver, les arrêts d'autobus sont assez bien déneigés ou pas, justement, pour les personnes en fauteuil roulant, pour la rampe, pour...
Bien, nous autres... on a un retard par rapport à transport régulier dans le sens que il n'y a pas actuellement de projet pilote ou d'accès pour les personnes en fauteuil roulant dans les autobus à plancher bas.
Ah,
on a
non,
un retard
hein?
là-dedans.
Okay. Okay.
Donc, les personnes en fauteuil, c'est pas un problème là de pas rentrer dans l'autobus urbain. Au niveau de des gens à mobilité réduite, par contre, ceux qui sont soit avec une canne ou bien qui ont sont âgés, qui prennent l'urbain régulier, ben eux autres, cet hiver, plus que d'autres hivers, ils ont souffert, disons, que du fait de la température et
ouais.
d'un déneigement qu'on n'a pas trouvé suffisant. Mmh. Il aurait fallu qu'il y ait plus d'attention pour déneiger les arrêts d'autobus pour les personnes à mobilité réduite et les gens ordinaires. On avait de la misère à enjamber les bancs de neige.
Ouais. Concentrons-nous maintenant sur le transport adapté. Là. Quelle appréciation feriez-vous du transport adapté? D'abord, les heures, l'attente, le temps, disons, combien de temps d'avance doit-on réserver?
Nous autres, c'est depuis l'origine qu'on peut réserver de séjour à 24 heures, c'est-à-dire quand les gens savent d'avance qu'ils vont avoir un conseil d'administration ou rendez-vous médical, ils peuvent réserver séjour avant, 6 jours, 5 jours. Bon, ça allait jusqu'à 24 heures, puis la journée même, 6 possibilités. Mais à cause de la période de...
Oh, la journée même, ça c'est bien.
6 disponibilités.
OK, oui, oui, mais quand même.
Okay. Mais il y en a qui peuvent l'avoir. Mais ce qui est arrivé dans la période de compression, bien, ils ont compressé la veille des transports demandés, bien là, ils ont mis des contraintes, donc ça enlevait de l'offre, OK? Donc, mais là, bonne nouvelle, c'est qu'ils vont la rétablir et on va pouvoir retrouver, faire des demandes la veille jusqu'à 18 heures, comme on faisait depuis 1980. Mais ça avait été, comment on pourrait dire, réglementé, discipliné, de sorte que c'était pas facile de faire des demandes la veille. Mais on vient de récemment là, de le revoir.
Chez vous, est-ce qu'ils ont droit à 30 minutes de jeu avant d'être considérés comme en retard?
Avez-vous dit... pour nous autres, c'est une contrainte. C'est juste depuis 2018
ah, okay.
qu'on a les plages. Et c'est 20 minutes.
Ah, c'est 20 minutes, OK.
Donc, oui.
Okay.
Nous autres, on n'était pas habitués à ça.
Je comprends.
On avait l'heure donnée, puis c'était un service qui marchait bien. Qui marchait bien, mais à cause des compressions budgétaires, ils n'étaient pas à l'aise de... Comprenez, ça marchait bien. S'il n'y avait pas eu la période de compression,
ouais.
on aurait peut-être pu garder le même système.
Il y a bien des choses au Québec, malheureusement, France Croteau, qui ont subi le même sort de se dire « Coudonc, ça fonctionnait bien jusqu'à ce que les libéraux décident de sabrer dans les dépenses. »
Mais là, les plages sont arrivées et ont mis ça à 20 minutes. Nous autres, on sait qu'à Québec, c'est 15 minutes.
Okay.
Donc, on demande que ça soit 15 minutes.
Je comprends.
Parce que c'est une contrainte pour le travailleur, pour le gestionnaire, pour les chauffeurs, c'est un avantage. Mais pour l'usager, c'est 20 minutes de sa vie qui peut être obligé d'attendre.
Bien sûr.
À cause de la gestion qu'on préférait installer, baisser la grandeur de la province, il paraît, mais nous autres, t'as pas habitué à ça. Ça a
mais
été un choc, là, quand
c'est,
on a
c'est
eu
certain
ça,
que pour le fournisseur de transport, par contre, il y a moyen disons, de modifier les coûts parce que en se disant on a 15 minutes un peu partout, ben parfois ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même voiture pour 3 déplacements plutôt que 2 ou 3 voitures qui seraient obligées de sortir. Peut-être, comme vous dites, là, si on pouvait descendre à 15 minutes, à défaut du aucun retard, mais au moins réduire le 20 minutes, il me semble que ce serait un compromis intéressant.
Oui, mais ça a été fait, ce logiciel-là, il a été créé dans un contexte de plus de budget. Plus de budget, on fait quoi? C'était un logiciel qui était spécialisé, comment on va faire pour voyager tout le monde, le plus de monde possible, avec un top de budget. Or, depuis 2017, le MTQ a débloqué des fonds avec le ministre Lessard. Il a commencé à débloquer, puis ensuite, l'année électorale du gouvernement libéral, ils ont débloqué, vous savez, 110 millions pour le transport adapté pour 5 ans. Donc, il y a eu un déblocage. Fait que normalement, on aurait dû avoir un déblocage, puis prendre 3 minibus s'il faut plutôt qu'un, mais une qualité de service. Mais ça n'a pas suivi vite. Mais là, ça s'en vient. Okay. Ils ont décidé d'investir davantage parce que le ministère des Transports nous envoie des sous au transport adapté.
Bon, vous parliez récemment de personnes âgées qui délaissaient le service pour compter sur leurs proches pour leurs déplacements.
En transport adapté, oui, à cause de la période de coupure, ça l'a entraîné, ben, je vous ai dit, une baisse d'achalandage.
Oui, oui. C'est quoi? C'est à peu près 2 % hein, je pense. C'est autour de 1,8, 2 % quelque chose comme ça?
Oui, c'est si je vous donne là, ma liste là, de diminution, c'est à peu près, ça a été 1,8 de diminuer.
C'est ça.
Il y a eu une diminution. Alors que normalement, dans le transport adapté, on avait des hausses de 4 % de 3 % Mais là, c'est ça là. Fait que les personnes âgées qui étaient handicapées au niveau de la loi avaient droit au transport adapté. Vous savez que les personnes âgées sont souvent désireuses de ne pas déranger, etc., etc. Alors, à cause des compressions, ça devenait comme un privilège là, qu'on leur faisait sentir d'avoir le service. Donc, elles sont retournées vers leurs proches souvent, c'est ce qui explique la baisse d'achalandage, à cause des refus, des quotas qu'il y a eu. Mais là, maintenant, on a espoir qu'ils reviennent et parce que là, le dernier mois, là, écoutez, c'est un record, 5 % pour le mois de mars cette année, un record, ça fait longtemps, parce qu'au début de l'année, en janvier, on avait encore une baisse, mais là, en mois de mars, on a 5 % d'augmentation au transport adapté. Ça,
le réchauffement donne le goût aux gens de sortir. En terminant, avez-vous des annonces sonores dans vos bus ou pas encore?
On a eu une bonne période de temps, mais là, depuis peut-être 6 mois, 1 an, on ne l'entend plus. Mais bon, on a des cris en haut là, qu'elle arrête.
Oui, je comprends pour les semi-voyants.
Pour les personnes,
France Coteau, merci beaucoup. Je dois m'arrêter ici. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice du regroupement des usagers du transport adapté de Sherbrooke métropolitain. On vient après la pause.
Merci.
Depuis 35 ans, Richard Therrien partage.
Oh, lui?
Qui donc?
Il me demande si j'ai le temps pour Christiane. Certain que j'ai le temps pour Christiane.
Mais surtout que Christiane, elle n'en a pas si long aujourd'hui. Là.
Non, mais en fait.
J'ai une chronique à
vous. Il voulait savoir si je voulais. Qui minute Christiane. C'est ça qu'il voulait savoir. Christiane, comment on est? Vous allez peut-être animer du trad sur CIBL?
Ben, ça se pourrait que je fasse des remplacements cet été.
Bon. Vous qui êtes là une fois par mois, le jour que vous allez chez la coiffeuse, vous m'avez déjà dit.
Pas toujours. Ça dépend.
Qu'est-ce qui n'est pas toujours la coiffeuse ou une fois par mois?
La coiffeuse.
OK. Christiane et moi, on partage.
La repousse n'était pas assez longue cette semaine.
Ça ne nous regarde pas.
Coquette.
Oui.
Mais là...
j'allais dire que vous partagez avec moi le... Ben, en fait, vous êtes plus folle que moi là, de la musique traditionnelle, mais on a ça en commun. Et comme j'ai pas beaucoup d'amis qui aiment ça, ben j'aime bien m'informer auprès de Christiane. Il y a Annick Desgnaux qui va être avec nous, elle qui va nous parler de nouvelles applications dans les prochaines minutes. Mais d'abord, votre petite revue de presse.
Oui, mais en fait, je me suis attardée à un article en particulier, à votre demande, d'ailleurs.
Mais c'est parce que j'ai un manque dans ma vie.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est une occasion de présenter le magazine où je l'ai pris, qui est le magazine Disability Horizon, qui est un magazine britannique lifestyle en ligne qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, qui est fait largement par des personnes en situation de handicap aussi.
Le pour et par, là.
Pour et par, mais j'ai regardé la liste des journalistes. Il y en a aussi une, c'est son frère qui a une paralysie cérébrale. Okay. Des gens qui sont proches du handicap. Mm-hmm. Et là, il y avait un article, un homme qui est en fauteuil roulant, on ne précise pas le handicap, mais qui ne l'est pas depuis longtemps. Donc, c'est pas un handicap de naissance. Il doit avoir eu un accident, quelque chose comme ça. Et là, il nous donne ses trucs pour se remettre sur la track sentimentale.
Le petit dating, là.
Voilà. Okay. Et d'ailleurs, je vais utiliser, je traduis ça pas mal, mais j'utilise le mot dating parce que je ne trouve pas qu'il y ait
d'équivalent.
Rendez-vous galant,
là, c'est ça.
Ouais, c'est pas tout à fait ça. Alors, il nous raconte qu'il a été un dater confiant, mais qu'il a eu un petit peu de difficulté à s'ajuster après s'être retrouvé en situation de handicap. Mais après avoir replongé dans le monde des rencontres, tout on a le punch en partant, là, il a retrouvé l'amour.
Oh!
Alors, il a décidé de partager. On dit ses trucs, mais en fait, ce sont ses réflexions, ouais, là, après coup. Alors, il dit, bon, c'est sûr que quand vous voyez quelqu'un de votre goût, ça peut être stressant de l'approcher. Mais, en gros, là, il vous dit de foncer. Alors, il dit, vous dit oui, votre
fauteuil roulant, ça va bien. Mais...
pas foncer dans les jambes de la fille en question ou de l'homme. Il dit, oui, votre vie amoureuse va changer. Vous êtes toujours la même personne qu'avant votre handicap, mais lorsque j'ai recommencé à rencontrer en ligne, il était timide, il attendait de le dire avant, un certain temps avant de dire qu'il utilisait un fauteuil roulant. Mais il dit que c'est une bonne chose, en fait, de le dire parce que ça élimine tout de suite les personnes qui seront trop freinées
ouais,
par ça.
Ouais, tu perds pas ton temps.
Ben voilà, exactement. Il dit parce qu'il y a des femmes à qui je parlais qui l'acceptaient, mais d'autres non, trop d'adaptation. Alors, autant régler ça tout de suite. Alors, vous ne devriez pas cacher votre handicap. Les trucs se confondent un peu, là. Donc, soyez honnête avec la personne avec qui vous parlez. Indiquez tout de suite vos limites, vos atouts. Un handicap, c'est pas quelque chose qui peut être dissimulé, ça ne devrait pas l'être.
En tout cas, pas quand t'es en fauteuil roulant.
Non, c'est ça. Ouais. Oui, évidemment, lui, il parle beaucoup de son cas personnel. Ouais, ouais. Il extrapole pas à, par exemple, quelqu'un qui aurait un handicap invisible. Mm-hmm. Il dit, ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent automatiquement comment le handicap vous affecte et change votre vie. Et ils vont être trop gênés pour vous poser des questions. Alors, placez-vous tout de suite en position de la personne qui est prête à recevoir les questions et expliquez tout de suite ça va être quoi les obstacles. Il dit, surtout, ça c'est un conseil, il dit, vous pourriez croire qu'il vous faut baisser vos standards, mais ne le faites pas. Il dit, dans les premiers temps, après avoir essuyé quelques refus, il a eu comme l'impression qu'il faudrait peut-être qu'il accepte des choses qu'il n'acceptait pas avant, comme une femme qui fume ou une femme trop contrôlante. Mais après ça, il s'est dit, non, ça ne marche pas comme ça. Je reste sélectif, je ne me contente pas de quelque chose qui est OK. Si la personne ne rock pas mon monde, elle n'est pas faite pour moi.
Mais de toute façon, ceux et celles, puis je pense qu'on l'a probablement majoritairement vécu, à un moment donné, on se rend compte qu'on est plus ou moins bien arrimé. Vaut mieux être seul que mal arrimé. Moi, c'est pour ça que, oui, je suis curieux, puis qui sait, mais j'aime mieux être seul, même si ça fait 10 ans, que subir.
Voilà, exactement. Il dit justement, le dire rapidement, ben ça élimine les personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons, en gardant ses standards et tout. Alors, le conseil de cet homme qui s'appelle Tom, c'est de y aller et que vous allez, comme lui, trouver l'amour.
Ouais.
Alors, je répète, c'est le magazine Disability Horizon, un magazine lifestyle. Il y a toutes sortes de conseils. Bon,
c'est pas grâce à lui que je vais...
C'est pas grâce à lui?
Ben, c'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. On n'a rien appris. Là.
Est-ce qu'il y a l'équivalent?
Attends un petit peu, De lifestyle pour les personnes handicapées?
Non, en fait, des magazines en ligne spécialisés.
Non.
Canadiens francophones,
mais
il y
Christiane
en a
va lancer ça à l'automne.
Il y en a un en anglais qui s'appelle Abilities. Mais il n'y en a pas en français.
Moi, j'ai découvert, je n'ai pas encore lu ce qu'ils ont fait, mais j'ai découvert Autistes à plein temps. Je pense qu'ils s'en vont dans la même direction. Ah. Un groupe de personnes autistes qui se sont unies pour prendre la parole, en fait, parler de leur réalité vécue de l'intérieur sous la forme d'un blog.
C'est une très, très bonne idée. Justement, parlons de vos affaires à vous, Annick Desnoyeaux. Vous n'êtes pas seule dans cette introduction d'une application de réalité virtuelle pour voir le monde avec la sensibilité de Matisse, qui est un enfant qui vit avec un TSA. Vous étiez avec, je regarde ici, le Martine Asselin.
Exact.
Et je remarque, parce que bon, j'ai essayé de comprendre, il y a plusieurs volets, là. C'est quoi? C'est comme un programme? C'est comme, comment vous... Parce qu'il y a l'application, mais il y a bien d'autres choses.
Oui, en fait, notre démarche vient d'une démarche traditionnellement documentaire. Martine et moi vont rencontrer plusieurs personnes adultes, enfants, ados, autistes, et collaborer pour créer le contenu. En fait, c'est un pèlerinage de maman. C'est de là que l'initiative est née. Donc, nos deux enfants, Martine et moi, sont autistes. Et Pour notre plus grand souhait était de découvrir, de mieux comprendre en fait ce que nos enfants vivaient au quotidien. Mmh. C'était de passer, si on avait eu une baguette magique, 24 heures dans la tête et dans le corps de nos enfants. Ouais. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est, après avoir fait cette démarche documentaire-là, on avait l'obsession, le nommer ainsi, mmh. donc de vraiment le vivre, d'intégrer cette sensibilité-là. Donc, la réalité virtuelle s'est offerte à nous, en fait, comme une disposition qui était la plus naturelle et propice à chausser. Mais, tu peux utiliser l'image, la réalité d'une autre personne. Donc, le projet, effectivement, se décline en plusieurs sous-projets.
Mais Annick, on travaille très fort dans le milieu du trouble du spectre de l'autisme pour nous dire que finalement, il n'y a pas de prototype particulier, là, justement, bon, le atypique. Et donc, comment fait-on pour arriver à faire une proposition comme la vôtre tout en voulant s'assurer que Luc qui regarde, qui écoute, ne pense pas que c'est ça l'autisme? C'est un 2%, un 4%, un 8% peut-être de l'autisme.
Oui, tout à fait. Donc, nous, comme auteurs et réalisatrices, Martine et moi, ce qu'on a choisi, c'est d'assumer que notre œuvre n'était pas une œuvre de spécialiste, premièrement, okay. Et on a travaillé principalement 80% avec des personnes autistes. Mm-hmm. Et on assume notre biais artistique dans ça. Donc, nous sommes neurotypiques et avec toutes les couleurs que chacune, Martine et moi, possédons. Mm-hmm. Et on assume que c'est une traduction de ce que les personnes autistes nous ont partagé de leur expérience par le biais de la réalité virtuelle dans le corps et la perception d'un personnage qu'on a créé. C'est un docu-fiction. Mmh. Donc, on adopte la position d'un individu avec un ensemble de caractéristiques colligées auprès de différentes personnes et de nos observations en lien avec nos enfants. Et on prend la posture de Matisse ou de Lou, éventuellement, qui sera dans la phase 2. Lou étant le personnage qui grandit de l'enfance à la vie adulte.
Ah, OK, intéressant. Donc, ça s'appelle « Les pieds en haut ».
Exact. C'est un triptyque.
Est-ce que c'est quoi, c'est lespiedsenhaut.com? Comment je fais pour trouver ça facilement?
Oui, sur le web, vous nous trouvez facilement en tapant lespiedsenhaut.com. Okay. Et présentement, on est en campagne de sociofinancement. Donc, sur Haricot aussi, c'est possible de nous trouver en allant sur le site de Haricot et en tapant lespiedsenhaut.
Bon, Annick, qu'est-ce que je manque ne voyant pas? J'ai essayé, j'ai regardé un peu. À un moment donné, bon, je voyais pas la différence. Je voyais juste que l'enfant, il voulait pas aller souper. après ça, à un moment donné, bon, j'ai compris que un peu comme... le chien, quand le professeur parle dans Charlie Brown, tout ce qu'il entend, c'est une trompette. Matisse peut avoir de la difficulté à saisir la commande ou la demande du parent. Mais mis à part ça, est-ce que visuellement, il y a des choses que je manque, mais qui ajoutent?
Oui, tout à fait. Effectivement, mais c'est intéressant aussi que vous amenez cet aspect-là parce que ça pourrait être une réflexion intéressante. Comment, sans le sens visuel, on peut arriver à mieux faire comprendre le vécu d'une personne autiste? J'apprécie notre rencontre pour cette réflexion que vous amenez, Luc. Donc, ce que vous manquez visuellement actuellement dans l'œuvre, c'est évidemment dans la VR pour notre premier la phase 1, pardon, pas le prototype, donc la phase 1 avec Matisse, il y a beaucoup de stimulation visuelle. Donc, on a des moments de fascination où on est dans l'univers sensoriel visuel de Matisse. Matisse aime les choses qui tournent, aime le rouge.
Oui, c'est vrai, on entend une toupie souvent.
Exact. Ouais. Quand, par exemple, sa maman, ça c'est plus audio, sa maman lui parle, s'il regarde en même temps les informations, à cause de l'information émotionnelle des attentes de sa maman, le message se brouille. Par exemple, aussi, quand il y a des stimuli surprenants au niveau sensoriel, au niveau sonore, sa vision aussi devient dérangée, en fait. Ce qu'on a transposé, on veut pas dire que les personnes autistes voient de manière floue quand il y a un stimuli surprenant au niveau sonore. Ce qu'on a voulu traduire, c'est l'état de stress.
Okay.
Donc, l'effet de la surprise liée au son va créer un stress chez la personne qui peut, par la suite, engendrer différentes réactions qui sont atypiques ou surprenantes pour nous, les personnes autistes. Non autistes.
Matisse va... Disons, jusqu'à Lou, là, il y a combien d'années avant que la phase 2 et Lou... puisse entrer en action?
Ah ben, ça va dépendre du succès de la campagne de sociofinancement du prochain dépôt au Conseil des Arts. Donc, j'espère que Conseil des Arts écoute Canal M et voit. Ouais. Donc, on a complètement...
Parce que là, il a 5 ans, Mathis.
Exact. Ouais. Mathis a 5 ans et ça, c'était la première œuvre qu'on a fait. On est allé à Sunnyside, on est allé au RIDM, en fait, en 2016 avec ça. On a pitché, on était envoyé...
Le Rendez-vous international du documentaire de Montréal.
Exact, ouais. Exact. Et là, on a gagné à DocuNexion. Ils nous ont envoyé complètement à La Rochelle, dans le bonheur. C'est vraiment c'est un moment très heureux dans notre projet à la Sunnyside of the Dock, là où on a gagné à nouveau le Best Digital Création Projet. Et ensuite, avec ce projet-là, ce qu'on se dit, c'est OK, ce qu'on veut, ça, c'est la phase de prototype. Et finalement, on l'a assumé, on l'a peaufiné et on a choisi de le lancer aujourd'hui. Voyant la réalité du financement des projets audacieux comme des projets VR, où est-ce qu'en plus, on est un hybride docu-fiction en VR avec une trame narrative forte, mais un positionnement en lien avec l'inclusion sociale, c'est comme on n'arrive pas facilement à fitter dans les cases. On est un hybride, là, un projet novateur, mais on n'amène pas d'innovation technologique. Fait que bref, c'est assez dur de nous caser. Donc, on a développé, on a réussi à avoir du financement du Conseil des Arts pour développer un prototype en 3D pour Lou. Et là, on redépose pour la suite de Lou, en fait. C'est qu'on veut, faire vivre la vie adolescente et la vie adulte de Lou. Et pour que ça...
Lou, à quel âge?
Lou, on le connaît aussi à 7 ans et il grandit à l'adolescence et à la vie adulte. On a scénarisé tout ça, là, on espère...
Avec la même personne, comment vous allez faire ça? Comment le même acteur ou le même peut avoir 7 ans et à moins qu'on ne voit jamais l'enfant, je sais pas.
Oui, ben en fait, celui-là, c'est un peu différent. Donc, la première version, la version 1 avec Mathis, mm-hmm. qui est en haut, Mathis, c'est une vidéo 360. Donc, ce sont des comédiens qui sont là. Mais avec Lou, c'est en 3D. Donc, c'est tout un univers qui est créé en 3D, qui est généré dans Unity, entre autres, avec des geeks sublimes. On a travaillé avec Unlimited, ils sont extraordinaires, les gens qui ont travaillé là-dessus. Ils croient beaucoup en nous depuis le début. Puis s'investissent avec nous, sont hyper précieux.
L'enfant qui personnifie, à moins que ce soit vraiment Mathis, mais a-t-il vraiment 5 ans? Parce que je le trouve vraiment... Bon, je pense que c'est un mauvais choix de mots, disant articulé dans ce cas-ci en français, mais disons qu'il s'exprime très bien.
Oui, ben en fait, dans la V1, dans Mathis, c'est le fils de Martine qui joue. Donc, il est autiste. Okay. Le fils de Martine, c'est Théo. Et autour de 7 ans. Il fait la vidéo 360 avec nous. Et c'est lui qui fait la narration aussi. Puis quand on a fait la version anglaise, c'était une jeune fille autiste aussi qui faisait la narration. Pour nous, c'est vraiment important de travailler avec les personnes autistes et pas de prendre la parole pour eux. On est un catalyseur, on a mobilisé des forces vives puis des réalités. Ça nous intéresse, on veut connaître, on veut traduire cette réalité-là, mais on veut le faire ensemble. C'est un projet inclusif.
Les pieds en haut, allez sur lespiedsenhaut.com. Devant moi, là, Annick Daigneault, mais en collaboration également avec Martine Asselin. Et vous tous et toutes qui investissez quelques haricots, justement, dans ce projet-là et dans la suite des choses. Merci beaucoup d'être passé. Bravo. D'autant plus que ça doit être quelque chose, quand on est artiste en art médiatique, de parler de soi, de parler de quelque chose d'aussi prenant. Ça doit être un projet bien différent de ce que vous avez fait dans le passé.
Oui, mais c'est motivant. J'imagine. Ma détermination est encore plus grande.
Souvent, lorsqu'on voit le titre « Poisson d'avril », on peut penser au 1er avril, mais en fait, lui, il parle plutôt de la pêche qui ouvre le dernier week-end d'avril. Du moins, c'était comme ça à l'époque du premier album. C'est quoi, Maurice? C'est 2001, ça, cet premier album de Marc Derry, Sans Zébulon? Il me semble que c'était ça, début des... Oui, il dit qu'il vérifie. Mais on démarre ça, ce poisson d'avril-là.
Une once de pâte, du stuff pour les mouches, des mouches, pis une canne à mouche. Ma ligne à lancer léger, ma tente à une place, mon flot tube pis démené. Ouais, je pense bien que j'ai tout, oh, y'a juste la bouffe. Je vais arrêter au dépanneur sur le bord de la route. Laissez un message numérique ou vocal après le bip. Je m'en vais pas.
poignée de la truite. La belle petite. J'y pense à travers, j'suis pas mal fier. J'ai toujours eu de la misère avec l'hiver. J'étais plus du monde, j'm'endurais plus. J'pense que j'étais sur le bord de la crise de nerfs. Ok, salut ma blonde, j'm'en vais faire le vide. J'ai besoin d'être tout seul avec mes bébites. Suspendu tout seul à mon petit morceau de graphite. J'm'en vais pogner de la truite. Mais si tu veux, en revenant, je te fais un kid. Oh, dit-il d'un air intrépide et d'un ton fromager. Du stuff pour les mouches, un petit brin de paille dans la bouche. Ma ligne à lancer léger, mes bottes, mon casque avec une drôle piquée sur le côté. Non, je veux rien savoir, j'ai foule de verre, des beaux gros verres de grains biologiques. Laissez un message numérique ou vocal après le beat. Dernière fin de semaine d'avril, c'est le temps de la truite. Oh, la belle, la belle, la belle, la belle, la belle petite.
C'était le premier qui utilisait le scratch dans la musique dite populaire, mainstream, sans nécessairement avoir du hip-hop. 99, me disait Maurice pour Poisson d'avril. Et une petite pensée à ceux qui pouvaient pêcher dans les rues cette fin de semaine et qui vont pouvoir malheureusement continuer d'avoir des poissons dans la piscine. Puis ça doit vraiment, vraiment pas être évident. Puis en même temps, de l'autre côté, je me disais, hé là là, si on mettait autant de publicité sur... Parce que là, on parle de 6500 personnes. Il y a combien de personnes qui vivent des limitations fonctionnelles au quotidien, qui peuvent pas rentrer telle place, qui peuvent pas... des fois, il y a un petit article ici et là, puis tout ça, mais la couverture est quand même assez impressionnante des inondations. C'est sûr que les images y font pour beaucoup. Et en disant ça, je pense à Nathalie Richard qui est devant moi, qui elle est fondatrice et directrice de l'Étoile de Pachot, ce réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés, entre autres. Et on a demandé à Nathalie de venir parce que je lisais un article où elle précisait « Moi, mon enfant a un handicap et je dois encore me battre et il est pas, je ne suis pas encore considéré comme un parent d'enfant qui a un handicap qui mérite d'avoir... » une aide financière. Et pourtant, ça fait comme... C'est pas d'hier, là, que vous avez un enfant avec une limitation fonctionnelle. Donc, c'est ce genre de truc-là, des fois, où tu dis, oui, on parle des inondations, mais, tu sais, ça dure 2 semaines, tandis que l'autre, ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment allez-vous, Nathalie Richard?
Bien, ça va très bien, merci.
Parlez-moi de vos frustrations.
J'en ai plusieurs.
Oui.
C'est drôle parce que vous parliez des inondations, puis c'est une petite parenthèse, là, mais juste sortir de chez... Ben, je pense que vous le savez, hein, mais des fois, sortir de chez nous avec mon fils en fauteuil est compliqué. Sortir de la ruelle pour pouvoir se rendre à l'autobus, c'est à chaque jour, puis c'est pas parce qu'il y a... mon cœur est avec les gens qui vivent les inondations, là. Je vais pas du tout diminuer ce qu'ils vivent, mais mon Dieu, c'est à chaque jour de notre vie, ça va l'être pour, bon, jusqu'à temps que mon petit garçon ne soit plus là, mais c'est un défi au quotidien. Oui. Comme vous le dites, là, on n'en parle pas beaucoup, hein?
Je parle de ce supplément pour enfants handicapés... Qui nécessite là, des soins exceptionnels. Ça date de 2016. J'ai l'impression que vous pensez que vous devriez recevoir quelque chose dans votre situation?
Bien, en fait, moi, je reçois le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels pour mon fils depuis 2016, donc depuis que ça a été mis en place. C'est sûr que, étant la fondatrice, la directrice de l'Étoile de Pachot, je pense pas que ça aide. En fait, c'est ce qu'on a constaté. C'est que les enfants qui sont lourdement handicapés. Puis là, je vais reprendre un peu les termes là, du premier ministre. Là, dernièrement, on l'a vu à plusieurs reprises là, à l'Assemblée nationale en parler. Ils disaient les très, très, très handicapés. Les très, très. Puis les très. Bon. Ceux qui sont très, très, très là, ils l'ont eu, le supplément.
Ça prend trois traits pour avoir...
Quatre, là, mais bon.
Parce que c'est ça. Quelle est la différence, finalement, entre le supplément de base et le supplément, disons, accentué? Là?
Le supplément enfant handicapé de base, c'est 195 $ par mois. Okay. Donc, dès qu'on a un statut d'handicap qui est quand même assez, je ne sais pas comment dire ça, facile à obtenir, on reçoit ce supplément-là mensuel. Si on veut obtenir le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, qui est de, je pense, c'est 973 $ par mois. Donc, notre enfant doit être, comme je le disais, très, très, très handicapé. Donc, ce qu'on a constaté après que le supplément a été mis en place en 2016, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont exclues. Donc, qui n'ont pas droit à ce supplément-là. Donc, sur 36 000 familles là, environ qui reçoivent le supplément de base, il y en a environ 2200 qui reçoivent le supplément pour enfants handicapés nécessitant les soins exceptionnels. Donc, ça laisse 34 000 familles qui ne le reçoivent pas.
En même temps, bon, on comprend qu'il faille mettre une ligne. C'est-à-dire, ça prend trois traits. Mais comment justifier et qu'est-ce que vous... Bon, actuellement, comment fait-on pour justifier... que l'on doit recevoir plus de... C'est quoi, 185?
195.
15, OK. Mais en même temps, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Parce que, bon, les 34 000 peuvent peut-être pas avoir 1 000 $ par mois, là.
Non, non, je suis d'accord avec ça. En fait, nous, ce qu'on demandait à la base, c'est qu'ils revoient ce supplément-là pour le rendre plus modulable. Donc, au lieu que ça soit qu'on a droit soit à 195 ou à tout, qui est le 973 $ par mois, qui fassent des modulations pour pouvoir rendre ce supplément-là plus inclusif pour les niveaux d'handicap. Donc, c'est ce qu'on a proposé au gouvernement. Donc, de faire une modulation selon la sévérité de l'handicap qui viendrait avec un montant. Donc, ça, c'était la première chose qu'on demandait. Et l'autre chose qu'on demandait aussi, c'était de régler le dossier, dans le fond, pas le dossier, mais de régler le problème de l'équité financière. Donc, ça a été beaucoup médiatisé là, l'été passé. Là. Moi, là, en tant que famille, en tant que maman d'un enfant lourdement handicapé, je reçois 14 000 par année.
OK, la différence entre la famille et la famille d'accueil. Là.
Oui, exactement, c'est ça. Donc, c'est les deux choses un peu qu'on demandait au gouvernement qui règlent le problème pour les familles qui n'ont pas droit au supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels et qu'ils augmentent le montant afin qu'on ait l'équité financière avec les familles d'accueil.
En même temps, Nathalie, on manque de familles d'accueil?
On veut
probablement non seulement donner ce que ça coûte, mais également un incitatif pour inviter les gens à devenir famille d'accueil, puis peut-être qu'on peut comprendre ça?
Oui, mais ça réglera pas, on va s'entendre, ça réglera pas le problème des familles d'accueil demain matin. Là, présentement, il y a environ une dizaine d'années d'attente pour pouvoir placer un enfant qui est lourdement handicapé. Donc, je veux dire, même s'il y, aurait quelques familles qui s'ouvriraient, qui arriveraient, là, ça ne réglera pas le problème. Je pense qu'à la base, il faut revenir avec le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qu'on réussit à maintenir en vie grâce aux technologies médicales et les grandes avancées qu'il y a eu. Mais souvent, moi, je me dis, c'est à quel prix? Parce qu'on en fait des enfants très, très, très hypothéqués qui vivent beaucoup plus longtemps.
Est-ce que les critères sont trop sévères ou c'est juste que c'est trop long avant que les dossiers prennent vie, prennent forme?
Selon moi, les critères sont trop sévères.
OK.
Ouais, c'est la grille d'évaluation est très grise, en fait. Ce sont des médecins à Retraite Québec, une équipe de professionnels qui, avec des rapports d'ergothérapie, de physiothérapie, lisent les rapports et décident, bon, cet enfant-là est assez handicapé ou pas assez handicapé. C'est assez aléatoire. selon ce qui est écrit dans le rapport, en fait. Donc, ça, on a eu une très bonne conversation, en fait, puis on a rencontré l'attaché politique du ministre de la Famille à la fin janvier.
Oui, parce que ils se sont avancés. Oui. Bon, là, c'est rendu pour le début de l'automne.
C'est avant ça. On a une rencontre en mai, en fait.
OK. Il me semble que j'avais lu, bon, 22 millions, oui. Qui malheureusement n'a pas été... Bon, on le sait, il y a des gens qui ont été déçus au budget, mais c'est comme ça devrait se régler. Bien, régler. Ouais. En tout cas, il devrait y avoir amélioration.
C'est ce qu'on souhaite. En fait, moi, ouais. J'y étais au budget, hein, vous savez. Donc, on s'était fait dire, en fait, la veille, que nous étions dans le budget. Mais donc, voyons. On s'est rendu, je vous jure, au budget. J'étais avec Dave Turcotte, ancien député et notre conseiller stratégique et politique. Donc, on était au budget et puis on a appris sur place là, qu'on n'était pas là. On a pu rencontrer le ministre de la Famille, le premier ministre, qui eux-mêmes étaient assez abasourdis de voir qu'on n'était pas dans le budget.
Ah,
donc,
oui, c'était okay. Assez drôle. Pas.
Oui, ben, en tout cas, à moins qu'ils soient de très bons comédiens.
Ouais.
Voilà. Donc, ça nous a permis d'être en contact très rapidement avec les gens concernés. Puis suite à ça, il y a eu plusieurs discussions avec eux là, chaque semaine. Et puis là, on les rencontre en fait en mai pour qu'ils nous présentent le nouveau programme de supplément pour enfants handicapés.
Il me semble que même dit que 22 millions ne serait pas suffisant.
Bien, c'est clair. En fait, le premier
ministre...
Mais est-ce
que ça veut dire que je constate que ce n'est pas suffisant, mais ça va être 22 millions ou on va essayer de faire mieux?
Ils ont promis 22, au moins un minimum de 22 millions. Ils sont conscients, et le premier ministre nous l'a dit à plusieurs reprises, 22 millions, ça ne sera pas assez pour offrir l'équité financière.
Oui.
Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer comme programme, qui, on l'espère, vont inclure beaucoup plus d'enfants handicapés. Mmh. Puis, on va voir ce qu'ils vont proposer aussi comme montant, parce qu'on s'entend que 22 millions divisé par 36 000 familles,
on est nous courant,
on est loin de l'équité.
Oui. Merci, Maurice Bolduc. Merci également, Christiane. À vous, ben, je vous dis bonne fin d'avril. On se retrouve premier lundi de mai.
Dans quelques instants, Canal...